J'aurais peur de me perdre, tu n'aurais pas dû te perdre. Il aime les pêcheurs, c'est sûr. Selon le canon qu'il a reçu de son père, et comme son comportement d'amour, le vrai pêcheur scandalise et les hommes religieux. Il est presque contraint de donner la révélation de l'amour inconditionnel de son père. Qui nous demande simplement de nous reconnaître pécheurs. D'accepter son pardon. L'amour infini de Dieu envers nous. L'amour sans limite de Dieu envers nous. D'un côté et de l'autre, notre haine, notre péché dirigé contre lui. Voilà. En quoi consiste le message bouleversant à travers lequel Jésus évangélise. Et Jésus évangélise Dieu. Jésus fait de lui la bonne nouvelle une fois pour toutes. À chacun de nous, au plus profond de lui-même, est une personne qui attend de pouvoir pleurer dans les bras de Dieu. Quel que soit son sentier de mort sur lequel est il s'est égaré, tôt ou tard. Le moment vient où nous désirons poser notre tête entre les bras de Dieu, parce que nous sommes fatigués de notre péché. Et cette étreinte est un don inépuisable. Un don inépuisable de Dieu. Et ce don inépuisable de Dieu nous a été révélé par Jésus. Par Jésus-Christ. Chacun de nous, au fond de nous-mêmes, chacun est une personne qui attend de pouvoir pleurer entre les bras de Dieu. C'est pour ça que ne peux pas. Il va y avoir de jugement ou de condamnation pour tous ceux qui sont dans le Christ. Parce que notre vie, notre mort, notre éternité, notre temps, notre oui, notre personne appartient au Seigneur, ce qui veut dire que nous sommes la possession du Seigneur. Seigneur, nous appartenons au Seigneur. La personne du Saint-Esprit, profondément, elle appartient au Père et au Fils. Elle appartient au Fils. Elle appartient à l'épouse. Elle appartient à l'épouse et à l'épousé. Chacun de nous, nous sommes une personne. Et nous appartenons. Nous sommes l'image ressemblance de Dieu, et donc toute personne spirituelle appartient. Et le Saint-Esprit, eh bien, il est lumière dans l'amour de la très sainte Trinité. Parce que le Père et le Fils s'effacent et disparaissent dans l'amour et donc lui appartiennent. Responsabilité de toutes les étreintes de la personne entre elles fait d'elle une possession, une appartenance alors au Saint-Esprit et lumière. Il possède l'effacement, si je puis dire, de la lumière. Et l'effacement de la lumière naît de la lumière. Dans l'amour, et du coup, il est lumière. Parce que la lumière, et la lumière naît de la lumière, lui appartiennent. C'est une étreinte. Dès que tu vois que tu te trouves devant une personne, un enfant, c'est une personne, mais c'est une personne. Et si tu as une relation, si tu as une relation avec, si tu es une, si tu te possèdes comme personne, et que tu es en relation avec une autre personne humaine, ben dans la rencontre, ben nous nous appartenons mutuellement, c'est ce qu'on appelle la communion des personnes. Alors il n'y a aucun jugement, parce que si nous appartenons à Dieu, si nous sommes une personne humaine, si nous sommes l'image, ressemblance des personnes divines, de chacune des trois personnes. Ça veut dire que de trois manières, nous sommes une personne, appartenant à l'autre, appartenant à cette prise de possession. Quand je suis une personne humaine, je suis face à une autre personne humaine, elle peut me prendre, puisque je lui appartiens. Et il n'y a aucun jugement, il n'y a aucune impureté, il n'y a aucune un scandale et les pharisiens sont scandalisés parce que Jésus aime les pécheurs. Mais si nous appartenons dans notre vie, toute notre vie appartient à Dieu, à la personne de Jésus pour commencer. Notre mort d'abord. Jésus, et comme dit l'épître aux Romains d'aujourd'hui, eh bien, il a d'abord connu la mort. Et après, sa mort appartenait à nous. Là, on peut prendre l'étreinte de sa mort, nous appartient, nous envahit. Il a d'abord connu la mort, sa mort appartient au Saint-Esprit, l'Esprit peut étreindre. Il lui appartient. Sa mort appartient à Marie. Il a d'abord connu la mort. Et après, il a connu la vie, la résurrection. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et en le ressuscitant d'entre les morts, Jésus nous a justifiés. Il a d'abord connu la mort, ce qui montre bien quand il a voulu appartenir à Marie dans le premier instant du mystère joyeux de l'Annonciation et de la visitation de l'Incarnation. Et bien, la personne de Jésus, qui est le Dieu vivant se tenant à elle, est venu s'engloutir de manière hypostatique, dans une nature humaine, et aussitôt il a connu la mort. Tota vita Christi crux fuit ad cum martyrium, en se laissant appartenir par Marie. Marie va. Il est venu prendre en elle de quoi mourir. C'est ça ce que dit l'Épître ici aux Romains. Jésus a d'abord connu la mort dès le premier instant, sa liberté, sa nature humaine, son âme, sa mémoire, c'est-à-dire sa conscience d'amour, sa liberté, son don total de lui-même, humainement. Sa présence humaine dans la plénitude de grâce et d'amour, de la lumière de gloire qu'il possédait aussi. En s'engloutir dans le mystère de l'incarnation, il en est ressorti dans l'instant même, dans le goût et dans l'expérience de la mort. C'est un amour, il est mort d'amour, son amour est tellement fort qu'il en meurt aussitôt pour les pécheurs, pour la nature humaine qui vient d'étreindre tout entière. Il a d'abord connu la mort quand il est né dans la lumière, quand il a parcouru l'Égypte au milieu des torrents de sang répandu des saints et de sang. Quand il est descendu aujourd'hui à travers le Sikoussim et Shamem, étant de mort infligée par Lucifer à travers la nature humaine, à Dieu qui nous aime. Jésus a traversé enfant dans sa jeunesse, dans son intrépidité humaine. Il a connu la mort. Il a su ce que c'était. Dieu a fait l'expérience ce que c'était que la c'est pas la souffrance de la mort, c'est la mort en mourir et lui qui ne peut pas voir dans sa nature humaine voir son âme se séparer de son corps dans une mort humaine totale en raison de son union hypostatique. Il a connu la mort qui ne se réalisait pas. Il a connu sa mort sur la croix pendant les 36 années de sa vie. Une mort qui ne pouvait pas se réaliser. C'est plus qu'une agonie, c'est l'instant de sa mort. Qui se réalisait, qui s'actuait, qui se manifestait pas jusqu'à. La substance de sa réalisation dans la croix glorieuse. Ce oui, hein, la mort. Donc Jésus a d'abord connu la mort, et puis ensuite il a connu la vie. Et si ça a été comme ça, c'est pour qu'il puisse devenir le Seigneur et de mort et de vivant. Alors, c'est ton frère. C'est curieux, hein, cette association entre ce que dit l'Épître, la révélation du Nouveau Testament. Jésus a connu d'abord la mort. C'est le courant, leur vie sur la terre, à l'intérieur de la mort, et puis la résurrection, leur justification. Elle appartient à la donne, parce que lui, il est passé d'abord par la mort, et ensuite il est ressuscité des morts, il a connu ensuite la vie. Alors il est devenu la donne, et donc notre mort lui appartient, et notre résurrection lui appartient. Et dans notre mort et notre résurrection, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il nous être. Parce que sa mort et sa résurrection nous appartiennent. Nous sommes des personnes humaines. Nous sommes des personnes à l'image et ressemblance de Dieu. Cette étreinte-là, c'est la nôtre. C'est notre vie. C'est notre respiration, c'est notre parfum intérieur. C'est notre univers, c'est notre monde. C'est notre réalité, quoi, c'est notre vérité. Alors pourquoi mépriser? Pourquoi mépriser, juger, condamner qui que ce soit? Chacun sait. Chacun sait qu'il ne désire qu'une seule chose, c'est de connaître cette étreinte de la résurrection, en bondissant à partir de notre mort dans cette étreinte de la résurrection, à l'intérieur, dans la communion des personnes avec celui qui est la donne, Adonai. Adonai est notre Adon. Il est notre Seigneur. Et en réalité, chaque être humain, chaque personne humaine, chacune, qu'elle soit, qu'elle est toute sur la terre, qu'elle soit perdue dans la perdition, ou qu'elle soit dans la consécration, eh bien, il n'y a pas de différence, quelque part, parce que l'une comme l'autre, celle qui est dans la perdition, qui ne peut pas faire un acte d'amour pour Dieu, elle sait au fond d'elle-même, elle va savoir dans sa mort que Jésus a connu la mort, et que la mort de Jésus lui appartient. Et celui qui consacrait aussi sa mort, il y a un abîme entre sa mort et la mort de Jésus. Si la mort de Jésus ne lui appartient pas, et bien la mort de Jésus lui appartient. Et la distance entre notre mort et la mort de Jésus, dans l'étreinte, de celui qui aime les pécheurs, comme il aime la personne même, et la personne même du Saint-Esprit, avec la même intensité. La distance est la même. Et donc, pourquoi juges-tu ton prochain? Et ton prochain, quelque part, tu ne peux pas le condamner si tu es une personne humaine. Tu ne peux pas le juger. Parce qu'au fond de lui, tu ne sais pas à quel point il est intense, le désir de cette il est profondément puissant, le désir d'être dans les bras, dans les trains de cette Bien sûr, on peut anticiper cette étreinte extraordinaire du cantique et du cantique dans notre vie terrestre. Et le mariage spirituel, c'est très beau, ça. Parce que mais notre plus grande gloire, c'est que cette résurrection à partir de la mort de chacun puisse atteindre, puisse former le fond de la personne de ceux qui sont avec nous sur la terre. La communication de l'évangile, la communication, la bonne nouvelle, elle doit atteindre chaque pécheur et le pécheur le plus grand. C'est sûr. À nos propres yeux. Sans tricher, c'est nous. Nous sommes chacun d'entre nous la brebis perdue. Du berger des brebis. Nous sommes chacun d'entre nous la drague perdue de la femme. L'intérieur de la maison, celle qui ne sert pas. La drague qui ne sert plus. Mais quand elle l'a retrouvée, elle peut sortir de toi et convoquer tous ses amis, tous ses voisins. Ça y est, elle peut servir. C'est sûr, la brebis perdue, la drague perdue. Par excellence, c'est chacun d'entre nous. Hein. Et finalement, l'essentiel de notre vie, c'est une grâce. Et sur la terre, c'est une grâce qui fait la personne humaine, à l'intérieur de la personne de Dieu. Une grâce et qui fait jaillir comme une lumière vivante, une liqueur délicieuse, une transformation réelle. Cette conjonction de la mort est notre propre mort dans la mort de Jésus et en même temps son exaltation dans toutes les joies célestes et angéliques. Résurrection. La conjonction de ces trois en un endroit nous atteint, vient nous visiter, vient nous transformer. Jamais assez. On n'aura jamais assez la sagesse que Dieu, qui est Dieu lorsqu'il crée une personne humaine. Lorsqu'on est en face d'un enfant, lorsqu'on est en face d'une conception, lorsqu'on est en face d'une congélation. Là, je reconnais que nous sommes dans un état d'arrêt, parce qu'une limite a été franchie, où la destruction, la considération de la personne est accomplie. Jamais assez. Ce sens. De la splendeur invincible en amour de la personne lorsqu'elle est dans l'espérance. Et c'est sûr que aujourd'hui, peut-être pour la première fois, peut-être, nous dépassons une limite. D'un seul coup, un pas de plus et cet abîme infranchissable. une impossibilité absolue de voir où se trouve l'autre côté du précipice. Comment faire? On ne juge personne, on ne condamne personne, mais c'est notre humanité, c'est notre nature humaine. Justement, pas au titre de personne, mais au titre de la nature humaine tout entière qui est condamnée. On voit à la profondeur, à la distance de l'abîme, que la nature humaine est en train de basculer et qu'elle n'appartient plus à Jésus dans sa mort et sa résurrection, et qu'elle appartient à Lucifer. Est-ce qu'il faut retourner en arrière? Il faut avoir le sens de la personne. Il faut avoir le sens de la nature humaine tout entière à l'intérieur de l'existence. Toujours émanante dans la chair et le sang de la personne. Il faut revisiter notre conception pour qu'il y ait en même temps la nature humaine tout entière et en même temps l'apparition de la personne. Dans l'acte créateur de Dieu, il faut s'engloutir dans le Père. Il faut considérer que l'Esprit Saint nous appartient, que nous l'étreignons en nous enfonçant dans le Père, dans la visitation de cette conception qui est la nôtre et qui est celle de la nature humaine tout en chacun, pour retrouver la communion des personnes de manière réaliste, vivante, personnelle. Ainsi, il faut considérer il est vrai que la résurrection universelle nous est donnée et qu'elle vient jusqu'à nous, nous pourrons l'étreindre. Pour rejoindre en chacun, et d'abord en nous, à l'intérieur de notre propre conception, de quoi visiter l'univers de la mort qui veut nous aspirer à l'appartenance à Lucifer. Et s'il y en a un seul sur la terre, je dis bien un seul sur la terre, qui vit ça, un seul, c'est évident que tous les anges, toute l'hiérarchie, les myriades et myriades se lèvent et exultent. Ainsi sera grand lieu social pour un seul. Tandis que tous les autres milliards et milliards estiment ne pas avoir besoin de faire pénitence, pas besoin de cette conversion. À ce moment-là, la bascule se fait, oui. Dans la Jérusalem, où il n'y a aucun jugement, aucune condamnation, c'est l'immaculation. Le visage de Dieu, c'est montré à l'intérieur de la conjonction indissoluble entre la mort et la résurrection. Et la conjonction indissoluble entre la mort et la résurrection, c'est la croix glorieuse. C'est l'instant de la mort, mais accompli de Jésus. Par exemple, quand on célèbre la messe, regardez. On dit bien que c'est le sacrifice de la messe. C'est la mort qui est dans nos mains. Oh, tiens, la mort de Jésus sur la croix. C'est le Golgotha qui est devant nous et qui se présente et s'engloutit dans nos mains. C'est Jésus réel, réellement. Et c'est en même temps Jésus qui, dans son âme, descend et glorifie de l'univers de son anastase toute son âme, toute l'âme de Joseph, et qui crée le monde de la résurrection, déjà du point de vue de l'invisible et de l'intemporel. Dans la mort de Jésus, il y a la croix glorieuse, c'est-à-dire la vie de la lumière de gloire, créant tous les espaces de la justification, c'est-à-dire de l'ajustement avec le Père qui est tout en lui. Et puis il y a en même temps la mort, et les deux en un. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Jérusalem nouvelle, pour la recevoir et l'engendrer et l'étreindre. Donc quand on célèbre le sacrifice de la messe, on célèbre la mort. Et on célèbre aussi la gloire de l'univers d'Anastase, admirablement descendante jusqu'à nous dans l'offrande que nous en faisons à l'intérieur de tout nous-mêmes et dans la nature humaine tout entière. Vous savez, quand on dit la messe d'un sacrifice, la messe, c'est le sacrifice. Oui, il y a des gens qui déforment la messe, qui n'ont pas compris que la messe c'était le sacrifice parfait, c'était le sacrifice de Jésus, c'était la crucifixion de Jésus, oui, c'est vrai. Et pourquoi ils disent que la messe c'est la vie glorieuse et ressuscitée de Jésus? Non. Mais il ne faut pas séparer ce que Jésus a uni dans sa mort et dans sa lumière de gloire, dans le grand sabbat de son offrande, à laquelle il s'est fait prisonnier d'amour dans le hostie. Jusqu'à la fin du monde. Quand tu as compris ça, pourquoi veux-tu juger ou condamner? Un seul. Cette conversion de la nature humaine tout entière dans la personne de Dieu réalisant la conception de la personne humaine en l'engendrant, en nous créant en lui, en la réalisant. On a besoin de beaucoup, tous, chacun d'entre nous aujourd'hui, de cette humilité du roi qui, lui, reçoit tellement cette venue descendante de l'Apocalypse, du Seigneur, de la personne divine, en sa propre personne pour se confondre. En une seule retrouvaille, en l'ouverture des temps. Pourquoi ? Parce que les temps doivent s'arrêter. Ces temps-là dans lesquels nous sommes doivent s'arrêter. la considération de la personne nous amène à cette évidence. S'engloutir dans cette évidence, vivre de cette évidence, et vivre l'instant même du oui. Le principe de l'Église primordiale, dans la Jérusalem accomplie, conjoindre les deux dans une humilité parfaite. Tant que je n'ai pas fait ça, je suis plus grand que tous les pécheurs. Et en le faisant, je suis haut. Le plus grand de tous les pécheurs. Et je me tourne vers le monde nouveau, vers la Jérusalem pour laquelle Jésus a d'abord connu la mort, puis ensuite il a connu la vie. Les hommes, sans exception, voient les portes s'ouvrir sur leur propre étreinte à l'intérieur de ce monde nouveau. Hein? Et quand il y en aura un qui fera ça, c'est avec la puissance de l'étreinte du Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint nous appartient, dans l'adoration d'Esprit en vérité. Alors que le bon Dieu n'attend pas les hommes, les femmes et les enfants et les chrétiens de la terre à vivre une sainteté admirable, carmélitaine, bénédictine, apostolique ou pastorale, contemplative. Son attente n'est pas là. Son attente, elle est sur le royaume de cette conversion. Métaphysique, surnaturel et quasi incréé, dans le désert de la femme. C'est une grâce. Nous en sommes convaincus, cette grâce, Dieu est en train de la donner ces jours-ci. Et si on ne la désire pas, si elle ne fait pas le fond de notre étreinte dans les bras de Dieu, dans notre future résurrection, si elle ne fait pas le fond de notre grâce, comment nous sera-t-elle donnée? Elle nous sera donnée, et nous la recevons. Elle nous transformera. Et tout sera recréé. Et elle vient d'en haut. Elle va couler sur nous comme des torrents, fondant en nous pour resplendir partout. Le règne du Sacré-Cœur commence. Il n'est plus possible que le monde ancien continue à vivre. Il y a une nécessité éternelle et incarnée en prend la considération de la personne et le monde nouveau. Et ça, il faut en vivre. Il faut aussi. Plonger, si on le tire. Alors on peut dire qu'à chaque messe, on va sentir que Jésus, tout joyeux, nous a mis sur ses épaules. Et retourne chez lui, convoquant partout, dans les anges et tous les anges de Dieu. Le miracle des trois éléments. L'Église a trouvé son vrai visage, et l'hostie aussi.